Alors, dimanche passé, notre cher pasteur nous a lu une histoire, nous a raconté une histoire. Moi, je vais vous lire une histoire que j'ai trouvée dans votre journal préféré, dans mon journal préféré. Alors, ça se situe dans Actes, et c'est un récit, en fait, qui se passe dans l'Ancien Testament. Actes 7, 20 à 36. À cette époque, naquit Moïse, qui était un bel enfant, agréable à Dieu. Il fut nourri pendant 3 mois dans la maison de son père. Lorsqu'il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi Moïse fut instruit dans tout ce qui connaissait les Égyptiens et devint un homme puissant dans ses paroles et dans ses actes. Quand il eut 40 ans, Moïse décida d'aller voir ses frères de race, les Israélites. Il vit un Égyptien maltraiter l'un d'eux. Il prit la défense de l'homme maltraité et, pour le venger, tua l'Égyptien. Il pensait que ses frères, les Israélites, comprendraient que Dieu allait leur accorder la délivrance en se servant de lui, mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, Moïse rencontra 2 Israélites qui se battaient, et là encore, il voulut rétablir la paix entre eux. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous ? » Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse et lui dit « Qui t'a établi comme chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Quand Moïse entendit ces mots, il s'enfuit et alla vivre dans le pays de Madian. Là, il eut 2 fils. Et de nouveau plus tard, 40 ans plus tard, dans le désert, proche du mont Sinaï, un ange apparut à Moïse dans les flammes d'un buisson qui brûlait. Moïse fut étonné en voyant cette apparition. Mais comme il s'avançait pour regarder de plus en plus près, il entendit la voix du Seigneur qui disait « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se mit à trembler de peur et n'osait pas regarder. Alors le Seigneur lui dit « Ôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Viens maintenant, je vais t'envoyer en Égypte. » Ce même Moïse que les Israélites avaient rejeté en lui disant « Qui t'a établi comme chef et juge ?» Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte en accomplissant des prodiges et des miracles dans ce pays, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans.
Bonjour. Moi, je vais vous lire dans la première lettre aux Corinthiens, dans le premier chapitre du verset 26 au deuxième chapitre, verset 5. Considérez donc votre situation, frères et sœurs. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible, pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. C'est pourquoi moi aussi, frères, lorsque je suis allé chez vous, Je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu.
Et le dernier texte se situe dans Actes, au moment où Jésus remontait et partait au ciel. En fait, ses disciples lui posaient plein de questions. Évidemment, c'était le dernier moment où ils le voyaient en chair et en os. Et Jésus leur dit, « Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'au bout du monde. »
Eh bien, bonjour. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On vit dans un monde difficile. Et de plus en plus, en ces temps, il y a de la place que pour ceux qui sont forts, ceux qui désirent vraiment gravir les échelons, qui n'hésitent pas à marcher sur les pieds des autres ou à les bousculer. Et c'est cela que l'on prône lorsqu'on se présente pour un emploi, qu'on désire vraiment gagner sa vie, eh bien on nous demande toutes sortes de choses qu'on est souvent bien incapable de fournir. Et moi ce matin, je désire m'entretenir avec vous des bienfaits de notre faiblesse naturelle. Je crois qu'on est vraiment dans la droite ligne de la parole de Dieu en prenant un thème comme celui-là. Et en introduction, je vous propose de vous laisser interpeller par l'attitude des disciples de Jésus dans la période qui a immédiatement suivi sa mort et sa résurrection. Jésus n'est plus avec eux et l'esprit de la Pentecôte n'est pas encore répandu. Certes, Jésus est bien apparu à quelques disciples en des circonstances diverses. Mais eux qui s'étaient habitués à suivre Jésus se retrouvent seuls, abandonnés. Ils retournent à leurs anciennes activités de pêcheurs et ils vivent une période de crise. Ils prennent conscience de leur faiblesse et se sentent bien incapables de servir Dieu. Ils cessent de témoigner de leur foi. Je ne pense pas me tromper en affirmant que nous avons tous déjà vécu des moments semblables, des moments de découragement dans notre vie chrétienne. Conformément aux dernières paroles de Jésus, nous avons voulu obéir à son ordre d'être des témoins de l'Évangile. Mais nous avons très vite éprouvé des difficultés dans notre témoignage. Certes, je crois pouvoir dire que nous tous ici ce matin, nous avons entendu l'appel de Dieu, sinon nous ne nous serions pas déplacés pour venir ici au culte. Mais avons-nous tous accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur? Il est intéressant de constater que ceux qui ont vécu récemment cette expérience de la conversion vivent un zèle tout particulier pour le témoignage. Ils servent Dieu avec joie. Mais malheureusement, la plupart du temps, cette période de grâce ne dure pas. Comme les chrétiens de l'église d'Éphèse, nous abandonnons notre premier amour pour Dieu et entrons dans une nouvelle phase de la vie chrétienne. Nous regardons moins au Seigneur et plus autour de nous. À l'exemple de Pierre, désirant marcher sur les eaux à la rencontre de son maître, dès qu'il détourne son regard de Jésus, qu'il regarde autour de lui, il voit la tempête, il voit les vagues et il s'enfonce. Souvent, nous nous comparons aux autres chrétiens engagés au service de Dieu et nous les idéalisons, nous les voyons sur leur bon côté. Pour nous, ils ont des vies exemplaires. Nous faisons alors le constat que notre service n'est pas à la hauteur. Et pour être dans le coup, nous cherchons à imiter ces personnes. Nous devenons en quelque sorte des chrétiens comédiens. Nous voulons aider l'œuvre de Dieu par le témoignage de nos vies. Et cela nous conduit à une sorte de dédoublement de notre personnalité. Il y a d'un côté notre vie authentique que nous connaissons bien, avec ses faiblesses, avec ses péchés dont nous avons parfois honte. Et de l'autre, l'image idéale que nous cherchons à donner de nous-mêmes. Cette situation devient vite intenable et nous ne pouvons pas résister longtemps. Car nous entrons alors dans une période de crise, de déprime, qui nous conduit à tout abandonner. Peut-être que quelques-uns parmi nous sont venus ce matin dans cette situation. Pendant des mois, même des années, vous avez donné avec enthousiasme le témoignage de votre vie avec le Seigneur. Et maintenant, vous avez une image de marque à défendre. Vous en êtes arrivé à vouloir servir Dieu par vous-même, par vos propres forces, par votre propre intelligence. Vous avez peut-être augmenté le nombre de vos activités, mais avez constaté de moins en moins de résultats. Vous êtes entré dans une vie d'activisme stérile. Si aujourd'hui vous faites ce constat, ne vous découragez pas. De nombreux chrétiens ont vécu la même chose, et également certains personnages bibliques. Je vous propose, pour fortifier notre foi ce matin, de rappeler brièvement la vie de deux d'entre eux, un pris dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. D'abord Moïse, dont vous avez entendu une lecture tout à l'heure, le libérateur des Hébreux de la servitude en Égypte et celui qui a reçu la loi de Dieu. Et ensuite Pierre, l'apôtre Pierre, le prédicateur de la Pentecôte, conduisant 3000 personnes à la conversion qui constituèrent les débuts de l'Église. Vous verrez qu'il est interpellant de considérer en parallèle quelques périodes de leur vie. En les examinant, on est émerveillé devant l'unité de la révélation de Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je vous propose de fractionner leur vie en 5 périodes pour aider notre compréhension. Et j'ai choisi de nommer ces périodes de la manière suivante. La première, je l'intitule « La grâce ». Dieu se révélant à nous. La deuxième, la chair, le service de Dieu par nous-mêmes. Troisièmement, la crise, le constat d'échec, d'abandon, de déprime. Quatrièmement, l'esprit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et cinquièmement, le fruit dans l'œuvre de Dieu que Dieu a préparé pour chacun de nous d'avance. Nous examinons maintenant comment Moïse et Pierre ont vécu ces différentes périodes. La première, la grâce. Pour Moïse, dès sa naissance, Dieu l'aime et le prépare à sa future fonction. Il est sauvé des eaux, d'où la signification de son nom, Moïse. Il est gardé des dangers et de la mort réservée aux nouveau-nés des Hébreux. Il est considéré comme étant le fils du Pharaon. Il est instruit dans le plus haut niveau de connaissance de l'Égypte de l'époque. L'écriture, les mathématiques, la physique de l'époque n'avaient aucun secret pour lui. Étant placé à la tête de l'Égypte, il reçoit la meilleure des formations pour conduire par la suite les Hébreux hors d'Égypte. Pour Pierre, comme André, son frère, ainsi que Jacques et Jean, il était pêcheur sur le lac de Génézareth. Et c'est là que Jésus le voit et le choisit pour être un de ses disciples. Il lui donne un nouveau nom. Désormais, il ne s'appellera plus Simon, mais Pierre. Il sera instruit durant 3 ans dans la meilleure faculté de théologie qui n'ait jamais existé, à l'école du Maître. Jésus, le Fils de Dieu. Deuxième période, la chair. Pour Moïse, 40 ans ont passé. Il atteint l'âge de la maturité. Il est sensibilisé par la situation de ses frères, les fils d'Israël, esclaves en Égypte. courageux, il prend fait et cause pour un Israélite contre un Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Moïse est conscient de l'importance de sa position. Il pense être l'homme qui pourra délivrer son peuple des Égyptiens. Mais le résultat ne correspond pas du tout à ses attentes. Le lendemain, il va vers les Israélites et en envoyant deux qui se battent, il les exhorte à la paix. Mais celui qui maltraitait l'autre lui dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier cet Égyptien ?» À cette parole, Moïse prend la fuite dans le désert. C'est l'échec et l'abandon de tous. Pour Pierre, Jésus avertit ses disciples de sa prochaine mort quelques heures avant son arrestation. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Quand tu serais pour nous tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Quelle belle assurance! Il est convaincu d'être assez fort pour défendre son maître. Il se retrouve avec les autres disciples au jardin de Gethsémané et assiste à l'arrestation de Jésus. Pierre avait pris une épée avec lui, à tout hasard. Comme Moïse qui tua l'Égyptien, il tire l'épée de son fourreau pour défendre son maître. Il frappe l'oreille du souverain sacrificateur, du serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupe l'oreille. Mais peu après, dans la cour du souverain sacrificateur, il nie par trois fois être un disciple de Jésus. Et comme Moïse, il se retrouve seul, anéanti. C'est la défaite et la fuite. La troisième période, la crise. Pour Moïse, il se retrouve seul dans le désert de Madian, où il est engagé comme berger des troupeaux de Jéthro. Il est descendu de son piédestal. Dans cette situation, il prend conscience de sa faiblesse. Quel contraste entre sa fonction à la cour d'Égypte et maintenant à Madian, au service de son beau-père, à garder des moutons. Pour Pierre, dans cette période de crise, il est interpellé par Jésus. Avec beaucoup de compassion, Jésus pardonne Pierre pour son reniement. À trois reprises, il lui demande « M'aimes-tu ? » Mais pour éviter d'écraser Pierre, la troisième fois, il n'emploie plus le terme d'amour divin, mais il emploie le terme de l'amour humain. « As-tu de l'affection pour moi ?» Et quel contraste aussi dans la vie de Pierre entre la belle assurance de Pierre et la réponse que Jésus fait. « Tu sais toutes choses. » « Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Il n'ose plus employer le mot « agapé ». Puis Jésus l'invite avec les autres disciples à un temps de retraite, de méditation dans la chambre haute à Jérusalem. Ce temps rappelle celui que Moïse avait passé dans le désert. La quatrième période, je l'intitule « l'esprit », pour Moïse, dans la flamme d'un buisson en feu qui ne se consume pas, Dieu se révèle à lui. Il lui révèle sa puissance, sa sainteté. Moïse tremble, il prend conscience de sa faiblesse devant la grandeur de Dieu. Maintenant, Moïse est prêt à recevoir la puissance de Dieu. Il pourra marcher à la tête du peuple d'Israël et le délivrer de la servitude d'Égypte. Ce ne sera plus son affaire, mais celle de Dieu, car maintenant, c'est Dieu qui l'envoie. Et pour Pierre, dans la chambre haute à Jérusalem, il se retrouve avec environ 120 disciples pour prier. Ce sont ceux qui étaient proches de Jésus durant son ministère. Outre les 11, il y avait aussi les femmes, la mère de Jésus ainsi que ses frères. Dans Actes 2 à 4, nous lisons « Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Pentecôte, par des langues de feu, Dieu révèle sa puissance et sa sainteté à Pierre et aux autres disciples, comme il l'avait fait à Moïse dans le désert. La maison d'une part et tous les participants d'autre part sont remplis du Saint-Esprit. La relation de Pierre avec Dieu change. Il ne vit plus avec Jésus en le suivant, mais maintenant Jésus vit en lui par le Saint-Esprit. Et la dernière période, le fruit. Pour Moïse, quel changement! Ce que Moïse ne pouvait réaliser seul, malgré sa formation à la cour d'Égypte, il le peut maintenant, par la puissance de Dieu. Et Dieu ne se contentera pas de libérer son peuple par Moïse, mais il lui donnera la Torah, la révélation de la loi, des ordonnances et des préceptes. Pour Pierre, nous lisons dans Acte 2, comme pour Moïse, quel changement! Plus de crainte chez Pierre. À Jérusalem, lors de la Pentecôte, dans une magistrale prédication, il s'identifie à Jésus devant ceux qui l'ont arrêté et crucifié. Il proclame que Jésus est ressuscité, qu'il est le Christ, le Seigneur, qu'il est celui que David avait annoncé, le Messie. Cette prédication donnée par la puissance du Saint-Esprit frappe la foule assemblée et demande à Pierre, « Que ferons-nous ? » Il peut alors leur exposer le chemin du salut avec la promesse du don du Saint-Esprit pour tous ceux qui l'accepteraient. Et les fruits ne se font pas attendre. Par la puissance du Saint-Esprit, ce sont des prodiges, des miracles et 3000 conversions qui surviennent. C'est le début de l'Église. Vous qui ce matin êtes peut-être en situation de crise, de découragement, vous vous sentez-vous suffisamment faible pour recevoir la force que donne le Saint-Esprit? Avez-vous déjà fait la démarche de lâcher prise? Ou vous raccrochez-vous encore à vos capacités propres pour servir Dieu? Il est nécessaire de lâcher prise pour recevoir la puissance du Saint-Esprit en nous. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et verset 9, je lis « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Si nous sommes de ceux qui peuvent, par la grâce de Dieu, témoigner avec joie de la vie nouvelle reçue en Dieu, eh bien, souvenons-nous que la force du Saint-Esprit ne s'emporte pas comme un certificat dans nos bagages. Mais comme cela fut le cas pour les apôtres, cette puissance doit pouvoir être renouvelée pour notre témoignage. Et je vous invite à lire dans Actes 4, 29 à 31, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il est important de situer cette lecture dans son contexte. Pierre et Jean, selon leur habitude, montent au temple pour la prière. Ils voient un homme boiteux de naissance à l'entrée du temple et ils le guérissent au nom de Jésus. Devant ce miracle, la foule se rassemble autour d'eux et Pierre peut leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Il les invite à la repentance, à la conversion. Le résultat, 5000 hommes sont convertis. Et les chefs du peuple n'apprécient pas. Pierre et Jean sont arrêtés, mais sous la pression de la foule, ils sont vite relâchés. Et que font-ils? Eh bien, ils se rendent dans leur communauté, nous dirions aujourd'hui notre église de maison, notre groupe de prière. Et ils célèbrent ensemble le Seigneur, ils l'adorent et le louent. Pour fortifier leur foi, ils partagent la parole de Dieu, ils se rappellent la toute-puissance de Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui est au-dessus des rois et des princes de ce monde. Dans leur situation humainement désespérée, que vont-ils demander ? Être préservés des persécutions, des coups, de la prison ? Non. Ils ne demandent pas la protection de Dieu pour eux, mais ils demandent de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et en conséquence de leur prière, ils sont à nouveau tous remplis du Saint-Esprit, comme cela était le cas le jour de la Pentecôte. Mon but ce matin n'est pas de vous focaliser sur un type d'expérience, mais bien de vous convaincre de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit pour le service de Dieu. Certainement que tous, nous vivrons encore des situations de crise, de découragement, mais n'oublions pas de garder nos pensées fixées sur Jésus-Christ. Prenons le temps pour l'adorer, le louer, le célébrer, lui notre Seigneur et Sauveur. Dans un temps de prière, de méditation, de partage, de chant, comme nous le faisons le matin, attendons-nous à lui. En conclusion, je dirais que le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il vient en ceux qui l'invitent, en ceux qui ont pris conscience de leur faiblesse. Ce sont les faibles, les fragiles, qui sont les plus réceptifs au Saint-Esprit. Dans Matthieu 9, 12, nous lisons « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et il faut avoir soif pour boire. Dans Actes 21:6, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Ma prière est que cette méditation vous ait donné suffisamment soif pour aspirer à recevoir la puissance de l'Esprit-Saint pour votre témoignage et votre service dans l'Église. Que tous nous puissions garder cette dernière parole de Jésus qui a été lue tout à l'heure, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Amen.